journal des sports de ce jeudi avec tout d'abord le tennis. Le patron de l'Open d'Australie, Craig Tiley, a déclaré qu'il restait incertain du statut de vaccination de Novak Djokovic, malgré le fait que le numéro 1 mondial veuille jouer dans le tournoi de 2022. Djokovic, je rappelle, a refusé à plusieurs reprises de déclarer son statut vaccinal. Craig Tiley déclare que quelques joueurs et des membres du personnel seront autorisés à entrer dans Melbourne Park sans être vaccinés après avoir obtenu des exemptions médicales. Et il déclare aussi qu'en raison des protocoles de confidentialité, personne ne saura jamais si Djokovic demande ou obtient une exemption médicale, à moins qu'il ne le révèle lui-même. Affaire à suivre. On passe au foot, il y avait 10 matchs de Ligue 1 hier en France. Bilan avec Tom Rossi pour Radio France Internationale.
Encore un but dans les arrêts de jeu pour Paris qui arrache un match nul, un partout à Lorient. Après une prestation très poussive, sans idée, sans génie, sans but de Lionel Messi, mais sans défaite, c'est une habitude cette saison, sans convaincre. Paris a glané de nombreux points en fin de match, sans briller. Paris n'a perdu qu'une fois, Messi n'a marqué qu'une fois aussi. Mais le PSG compte 13 points d'avance sur ses poursuivants. À mi-saison, des chasseurs qui ne visent pas le sommet inaccessible de Paris. Mais le podium, ils sont 4 à se tenir en 2 points. Nice, vainqueur 2-1 face à Lens. Et Marseille, auteur d'un match nul 1 partout face à Reims, sont à égalité derrière Paris. L'OM qui peut encore remercier Payet, sauveur sur pénalty à la 97e minute. Rennes, battu par Monaco, et Montpellier, facile tombeur d'Angers, sont 4e et 5e en embuscade. Alors où est le champion de France? Eh bien le champion de France, Lille, n'est pas si loin et revient bien grâce au meilleur buteur de la Ligue 1, Jonathan David, et ses 12 réalisations. Ce n'est pas le cas de Lyon, toujours englué en 2e partie de classement après son match nul face à Metz, son 3e de suite. Mauvais résultat sur le terrain, jets de bouteilles et bagarres en tribune. Un peu de vacances feront du bien aux Lyonnais comme aux rivaux stéphanois. 5e défaite de suite pour la Lanterne Rouge face à Nantes, battue à domicile Saint-Etienne 1-0 par les Canaries. Et pour la première de Duprat sur le banc des stéphanois.
En Angleterre, la Ligue Cup, les quarts de finale. Tottenham qui a battu West Ham 2-1. Liverpool et Leicester ont fait match nul, 3 buts partout. Chelsea s'est imposé contre Brentford 2-0. Et mardi, Arsenal a écrasé Sunderland 5-1. En Angleterre toujours avec la Premier League qui déclare que les matchs seront maintenus pour le Boxing Day. Explication de Simon Bourtembourg pour RFI.
La nouvelle apparaît comme un cadeau avant l'heure pour tous les amoureux du ballon rond qui craignaient de se voir privés de football pendant les fêtes. L'idée avait pourtant fait son chemin tant la nouvelle vague de Covid-19 frappe les clubs anglais. Depuis le début de la saison, 10 matchs de championnat ont déjà dû être reportés pour des raisons sanitaires. Mais la période du Boxing Day est extrêmement importante sur le plan économique. L'affluence dans les stades affiche un taux record entre 95 et 100% de remplissage. La majorité des 20 clubs de Première Ligue a donc finalement voté pour maintenir le Boxing Day. 3 jours de championnat d'Angleterre reste donc bien au programme entre le 26 décembre et le 3 janvier. Et la politique de report au cas par cas sera poursuivie pour les matchs menacés par des cas de Covid au sein des effectifs. Mais les clubs devront prendre part aux rencontres dès lors qu'ils disposent de 13 joueurs de champ et d'un gardien de but. Les jeunes de moins de 21 ans devront être réquisitionnés pour combler les éventuelles lacunes de l'équipe première. En Angleterre, l'épidémie de Covid n'aura donc pas raison d'une tradition vieille de plus de 150 ans.
En Espagne, le Real de Madrid a battu l'Athletic Bilbao 2-1 et garde la tête du classement. En Italie, les deux premiers, d'abord l'Inter Milan, a battu Torino 1-0 et l'AC Milan, deuxième, a battu Empoli 4-2. Cette nouvelle, une Coupe du Monde tous les deux ans et la Coupe d'Afrique en automne. Explication de Marie-Amélie Motte pour RFI.
Président de la FIFA a pour la première fois chiffré les retombées économiques du passage à une Coupe du Monde tous les deux ans. 19 millions de dollars supplémentaires par cycle de 4 ans pour chacune des 211 fédérations membres. Gianni Infantino n'a pas fixé d'échéance à ce projet controversé, notamment à cause des conséquences qu'il pourrait avoir sur les championnats nationaux et sur la santé des joueurs. C'est un projet qui s'inscrit selon lui dans une vaste réflexion. On l'écoute.
La Coupe du Monde de tous les deux ans n'est qu'un élément d'un système d'ensemble que nous avons présenté pour l'avenir du football. Nous ne pouvons pas dire au reste du monde, écoutez, le football est super, le football est mondialisé, donc donnez-nous l'argent et regardez les matchs à la télé. Je comprends que dans certains pays, les fans sont gâtés. Ils ont la Coupe du Monde toutes les semaines parce que les meilleurs joueurs évoluent dans leur championnat. Mais dans d'autres pays, régions et même continents, vous ne voyez pas la Coupe du Monde, vous ne voyez pas les meilleurs joueurs dans toute une vie, dans toute une génération.
Gianni Infantino qui a également avancé l'idée d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations en automne.
La Ligue des Champions, et on parle de la Ligue des Champions des Dames avec les quarts de finale, Lyon et Paris à l'affiche en mars de 2022. Les Lyonnaises joueront contre les Allemandes du Bayern de Munich et les Parisiennes contre les Italiennes de la Juve de Turin. Éric Mamrut, RFI.
Et ce sera du lourd pour les deux clubs français engagés en Coupe d'Europe, du lourd corsé pour les Parisiennes qui ont hérité donc du Bayern Munich, demi-finaliste de la dernière édition, du lourd léger pour les Lyonnaises opposées à la Juventus Turin, l'équipe italienne version dame qui dispute les quarts de finale de la compétition pour la première fois de son histoire, mais qui apprend très vite, comme le raconte l'entraîneuse de Lyon, Sonia Bonpastor.
La Juventus, c'est une équipe qu'on connaît bien, puisqu'on les avait déjà affrontées la saison passée, une équipe qui nous avaient posé des difficultés. C'est une équipe qui a du talent. Le football féminin italien progresse énormément aussi ces dernières années. Donc voilà, beaucoup de méfiance et il faudra bien étudier cette équipe pour bien préparer le match.
Rendez-vous les 22-23 mars pour les quarts de finale aller avec donc Bayern Munich, Lyon et Juventus de Turin. PSG.
Et puis la CAN aura bien lieu à partir du 9 janvier prochain. C'est qu'a confirmé le président de la CAF, la Confédération africaine de foot, Sarah Loubakouche, RFI.
Pas de nouvelles déconvenues donc pour le pays des Lions Indomptables, écarté de l'organisation lors de la précédente CAN, contraint de reporter l'édition 2021 d'un an. Cette fois, c'est bon, la CAN va bien débuter le 9 janvier. Une annonce faite par le président de la CAF après une rencontre avec Paul Biya, le président du Cameroun. L'organisation de la CAN était depuis plusieurs jours menacée par la pandémie, par la crainte de plus en plus vive du variant Omicron. Après 48 heures de crainte, le verdict est donc tombé par le biais d'un Patrice Motsepe rassurant, qui a insisté sur l'intransigeance du protocole sanitaire.
Nous avons le devoir d'être confiants, de croire en nos capacités en tant qu'Africains à travailler ensemble. Travailler ensemble pour prendre conscience de l'immense responsabilité que nous avons concernant la sécurité sanitaire. Nous nous devons de protéger la vie des spectateurs qui viendront assister au match, celle des invités extérieurs au Cameroun, des visiteurs, mais aussi protéger la vie des joueurs. C'est de notre responsabilité, c'est un engagement non négociable.
La CAN toujours, et les internationaux africains pourront-ils être retenus par leur club européen? Écoutez la réaction de Kaba Diawara, qui est le manager de l'équipe de la Guinée. Il est sur Radio Foot International.
Ça me montre bien qu'ils respectent pas l'Afrique. C'est malheureux à dire, mais c'est la vérité. Alors, ils sont prompts à prendre des Africains parce que, au départ, ils les payent moins cher. Mais après, quand ils brillent et que ça devient des stars, on a le revers de la médaille encore en disant non, mais il peut pas partir. Mais c'est pas notre faute. Si la FIFA et la CAF, ils s'amusent à déplacer la CAN à chaque fois. Moi, j'ai parlé avec Naby Keita. Il me dit qu'on lui demande de rester jusqu'au 2. Le match contre Chelsea, parce que c'est un gros match pour eux. Mais le 2, nous, on a un match amical avant la CAN. On est déjà en préparation depuis le 26. Donc, ok, je comprends qu'ils jouent en Angleterre qui ne s'arrête pas, mais nous, nos joueurs, on les veut le 26 au soir. S'il arrive que le 3, il aura raté un match amical, il n'en restera plus qu'un. Et s'il joue le 2 qui se blesse, on fait quoi? En plus, lui, il est sujet à blessure. Donc, on va discuter avec son club, on va discuter avec Naby, on va voir. Mais ça veut dire que les clubs d'Europe, ils respectent pas l'Afrique, vraiment. Ils auraient jamais fait ça pour un Sud-Américain ou un joueur européen. Honnêtement, moi, je dis, c'est du foutage de gueule. Ils le savaient, les dates de la CAN. Donc, ils appuient toujours sur l'Afrique. On a toujours vu ça. On va pas aller très loin. On va pas monter dans les tours, mais il faut arrêter. À un moment donné, les joueurs sont africains. Ils sont pas européens. Ils jouent pour leur sélection et ils ont envie de venir. Si tu commences à le bloquer ou lui mettre une pression, il va pas être bon ni en sélection, ni en club. Donc, autant tu le libères, tu lui fais confiance, tu lui dis de faire attention et puis tu le laisses aller. Maintenant, s'ils sont pas contents, ils ont qu'à pas prendre des Africains. C'est tout. Voilà. Ils prennent que des Européens et puis voilà.
Et en ce qui concerne les clubs anglais, Que font-ils? Écoutez l'analyse de Philippe Auclair, le correspondant de RFI en Angleterre.
En ce sens qu'on attend toujours une réaction officielle de soit de la Première Ligue, soit des clubs qui font, des grands clubs anglais qui font partie de l'ECA. Pour l'instant, absolument aucune réponse positive de ce côté-là, de l'ECA ou des clubs anglais. Mais une autre chose qu'il faut également avoir en compte, c'est le fait que nous avons 40 joueurs actuellement en Première Ligue qui pourraient participer à la CAN. 40, c'est énorme. Et le problème, bien évidemment, qui se pose, c'est vu la situation sanitaire, les reports de matchs, le nombre de cas positifs. Il faut quand même savoir que l'Angleterre est le championnat dans lequel un tiers des joueurs ne sont toujours pas vaccinés, pas du tout vaccinés. Donc, il y a un autre problème qui se pose pour la CAN, c'est le fait qu'il va falloir que les clubs mettent les joueurs à disposition, mais également il va falloir que des joueurs soient tout simplement en état et physiquement capables de pouvoir venir au Cameroun. Et ce n'est absolument pas une évidence.
Voilà pour le Journal des Sports de ce jeudi. Vous écoutez Radio SBS, le programme en français.